Bonjour et bienvenue dans l'atelier des médias. Je m'appelle Steven Jambeau et on est ensemble pendant 20 minutes.
RFI.
Gros plan sur deux initiatives qui veulent faire du bien à l'information. Tout d'abord en Haïti, où a été lancé un site qui ambitionne de permettre à tout le monde de vérifier la fiabilité d'une information trouvée sur Internet. Ce site s'appelle Thomas.ht et Charles Weber, mondoblogueur et président du réseau des blogueurs d'Haïti, viendra nous en parler. Mais tout de suite, on va vous présenter Disclose.ngo qui vient tout juste de finaliser en France une campagne de financement participatif.
En France, en 2017, on décomptait plus de 4,4 communicants pour un journaliste. Le journalisme perd du terrain sur la communication. Première victime de cette austérité touchant les médias, l'investigation. Plus longue, plus chère, moins rentable.
Le journalisme, je cite, ne peut plus se contenter de dénoncer des faits, il doit contribuer au changement. C'est avec cette conviction que Disclose va se lancer prochainement en France. Léo Caravagna, de l'équipe de l'Atelier des médias, a reçu Geoffrey Livolzi, un des fondateurs de Disclose.ngo, qui, vous allez le comprendre, est un média, mais aussi une association à but non lucratif.
Disclose.ngo, c'est le premier média d'investigation à but non lucratif en France. C'est un média d'investigation qui sera sans actionnaire, sans publicité et en accès libre. C'est un modèle qui s'inspire de médias à but non lucratif qui se sont développés d'abord aux États-Unis avec ProPublica, qui ont essaimé après en Allemagne, Corrective, en Angleterre, The Bureau of Investigative Journalism, et dans pas mal d'autres pays en Europe. Et la France était un des derniers pays à pas avoir de médias d'investigation à but non lucratif. Donc maintenant, c'est chose faite avec Disclose.
Pourquoi vous avez créé Disclose ? Il y avait un besoin en France ?
Il y avait un besoin parce que c'est un des pays qui connaît la plus forte concentration des médias en Europe. C'est aussi un des pays où finalement l'investigation ces dernières années, même si elle est relancée avec Mediapart, avec Cache Investigation, a connu la plus forte baisse d'effectifs.
Alors je précise juste pour nos auditeurs, Mediapart c'est un média en ligne français qui fait beaucoup d'investigations et Cache Investigation c'est une émission télé qui fait beaucoup d'enquêtes, surtout économiques, diffusées sur France 2.
Et il nous semblait de plus en plus difficile aujourd'hui de pouvoir faire de l'investigation au long cours au sein des rédactions pour deux problèmes, une question de moyens et une question de rentabilité parce qu'on estimait que l'investigation n'est pas rentable. Et il nous semblait important de sortir l'investigation des logiques de rentabilité et donc de créer un média où on ne serait pas sur ces logiques-là, ces logiques de course à l'audience, en disant voilà, il faut donner à nouveau du temps et des moyens aux journalistes pour pouvoir faire leur travail d'investigation.
À propos de moyens, vous avez bouclé cette semaine une campagne de financement participatif. Vous avez récolté presque 82 000 euros. L'objectif, c'était 50 000. Est-ce que vous vous y attendiez ?
Alors, pas du tout. Enfin, on s'attendait quand même à réussir les 50 000 euros. Mais c'est vrai que 82 000 euros, c'est assez impressionnant. Surtout quand on connaît aujourd'hui la crise de confiance dans les médias. Il y a eu cette année en France plusieurs médias qui se sont lancés, certains qui n'ont pas fonctionné. Hein. Et donc, on est arrivé dans un contexte de fin d'année un peu difficile pour lancer un média. En plus, en pleine crise des Gilets jaunes. Et finalement, on a réussi à créer un engouement auprès de lecteurs, de gens qui veulent vraiment défendre le journalisme d'investigation et un peu clamer ce qu'on dit, que l'information est un bien public et qu'elle doit être soutenue.
Est-ce que tu peux nous dire quel sera le sujet ou au moins le thème des premières enquêtes ?
Alors non. Le premier sujet qui va être lancé, en fait, il va être en partie choisi par les membres de Disclose. C'est-à-dire qu'on va rentrer dans un deuxième temps maintenant, qui est qu'à partir de janvier, on va lancer un appel à sources à l'ensemble des membres de Disclose. L'objectif, c'est de dire aux gens, envoyez-nous, dites-nous quels sont les sujets que vous aimeriez que traite Disclose lors de sa première enquête. Et selon les propositions qui seront faites, les grandes idées qui se dégageront, on choisira le premier sujet d'enquête.
Tu as dit que ce sera en accès libre. Où est-ce qu'on pourra vous lire ? J'ai vu que vous avez des partenaires.
Alors, on pourra nous lire déjà sur le site de Disclose.ngo, donc ça sera en accès libre, mais ça sera aussi diffusé dans des médias partenaires. Donc, dans les médias partenaires, on a Mediapart, Combini, France Inter, la cellule investigation de Radio France, la chaîne Arte, et des médias locaux comme Rue 89 Strasbourg, Lyon, Bordeaux et Mars Actu à Marseille, qui s'engagent, ces médias, à rediffuser de façon gratuite aussi à leur tour le résultat de nos enquêtes.
Tout est gratuit pour les lecteurs, y compris chez ces médias qui, pour certains, ne sont pas gratuits. Mediapart, Mars Actu, c'est sur abonnement. Donc, comment vous allez faire, vous, pour vous financer, au-delà de la campagne dont on a déjà parlé ?
Tout le financement de Disclose repose sur le don. C'est de dire, on sort de la logique d'abonnement pour aller sur une logique de membre. Et la différence, c'est que quand on est membre, on supporte une cause. Ici, le journalisme d'investigation. Et donc les gens pourront être membres de Disclose à l'année ou pourront faire des dons ponctuels qui partent de 1 euro jusqu'à plus. Mais on dit voilà, on veut que tout le monde puisse participer à son niveau au financement de l'investigation sans obligatoirement payer un abonnement mensuel.
Quand on fait un don, est-ce qu'on sait l'enquête qu'on finance ou est-ce qu'on ne peut pas choisir le sujet comme tu disais au début ?
Eh bien non, en fait, quand vous soutenez Disclose, vous financez l'ensemble de la structure, l'ensemble des enquêtes qui vont être menées et pas une enquête précise parce que il va être difficile pour nous de révéler quelles seront les enquêtes que nous mènerons pour des questions de confidentialité et de travail des journalistes.
Tu as dit, depuis le début de notre entretien, tu dis disclose.ngo. Donc NGO, ça veut dire, c'est l'anglais pour organisation non gouvernementale. Vous vous présentez aussi comme une ONG.
Oui, alors Disclose, c'est un média et une ONG à la fois. Un média parce qu'on fait des enquêtes, on les publie, on les diffuse, et une ONG parce qu'on veut aller plus loin que la simple révélation de faits. On veut dire qu'il faut transformer l'indignation soulevée par les révélations en action. Et cela, ça passe par un engagement beaucoup plus fort des journalistes sur la suite des enquêtes. Et c'est pour ça qu'au sein de Disclose, il y a des chercheurs, des avocats, des juristes qui nous ont rejoints parce qu'on souhaite entamer par la suite de nos enquête des procédures juridiques. Alors, on ne va pas porter plainte contre des entreprises, mais on va aller interroger les institutions, les sociétés, en leur disant, voilà, il y a des données qui, aujourd'hui, sont des informations dites d'intérêt général qui doivent être rendues publiques, et nous allons nous battre pour que ces informations soient rendues publiques, ces documents soient rendus publics. Donc, il y a un côté là de plaidoyer. Le plaidoyer de Disclose, c'est de dire que l'information est un bien public et que les citoyens ont un droit à l'information, et c'est ça que va défendre, on va dire, l'ONG Disclose.
Geoffrey Livolzi, cofondateur de Disclose.ngo, répondait aux questions de Léo Caravagna.
L'atelier des médias.
En bref, dans l'actualité de cette semaine, il y a tout d'abord les violences contre les journalistes qui sont reparties à la hausse en 2018. C'est le triste constat de l'ONG Reporters sans frontières qui vient de publier son bilan annuel. Écoutez Christophe Deloire, secrétaire général de RSF.
Malheureusement, ce qu'on constate cette année, c'est que les violences contre les journalistes sont aujourd'hui à un niveau absolument inédit. Tous les voyants sont au rouge, quels que soient les indicateurs qu'on regarde.
Cette année, 80 journalistes ont été tués à travers le monde pour avoir exercé leur mission d'information. C'est 15 de plus que l'an dernier. Par ailleurs, RSF a compté 348 journalistes actuellement détenus et une soixantaine d'autres retenus en otage.
We didn't take a broad enough view of our responsibility, and that was a big mistake. And it was my mistake, and I'm sorry.
Est-il seulement possible, aujourd'hui encore, d'avoir confiance en Facebook ? On est en droit de se poser la question. Mardi, le New York Times a révélé que le réseau social a partagé les données de ses utilisateurs au bénéfice d'autres géants du web comme Amazon, Spotify, Microsoft ou encore Netflix. Selon le quotidien américain, ces entreprises pouvaient récupérer des données sur les internautes pour scruter un peu plus leurs habitudes. Facebook tente depuis d'éteindre l'incendie, assurant que ses utilisateurs, vous et moi, avaient donné leur accord dans les conditions d'utilisation du réseau social. Décidément, l'année 2018 aura été très compliquée pour Mark Zuckerberg et ses équipes. Et tout de suite, direction Haïti.
RFI.
Charles Weber, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président du RBH, le réseau des blogueurs d'Haïti, qui agit, je cite, pour une webosphère inclusive et saine en Haïti. Le RBH est à l'origine du site thomas.ht, dont vous êtes le programmateur, et c'est pour ça que vous êtes avec nous aujourd'hui. Thomas.ht permet de vérifier la fiabilité d'une information trouvée sur Internet en exploitant des techniques d'intelligence artificielle, donc des ordinateurs, mais aussi une communauté de ceux que vous appelez des super validateurs. Derrière tout ça, votre ambition est de répondre aux grands enjeux d'inclusion et de citoyenneté numérique en Haïti. Alors, ma première question, c'est très concrètement, comment marche Thomas.ht ?
Eh bien, imaginons un scénario, une personne reçoit un lien par WhatsApp, une information qui est publiée par un média et qu'il ne connaît pas le média ou qu'il le connaît. La personne prend le lien et elle colle le lien de l'article sur le site Thomas.ht. Eh bien, Thomas, dans ce cas, va faire le travail du journaliste à sa place pour vérifier la viabilité de l'information, du contenu de l'information, bien entendu. Et la personne va avoir trois choses. Elle va avoir un résumé automatique du texte, un résumé par extraction, c'est-à-dire que le robot va choisir la partie de l'article qui est plus représentative du contenu. Puis, il va deuxièmement donner des recommandations à la personne, si c'est plus ou moins fiable, si c'est plus ou moins fausse ou vrai. Et troisième chose, le robot va faire une analyse de l'émotion de la polarité, c'est-à-dire qu'il va dire si l'article est penché négativement ou positivement, si l'article est un article partisan, on va dire.
Et donc au final, il aura une photographie de cette information pour savoir si elle est vérifiée, fiable ou non.
Tout à fait. Et dans d'autres cas, le robot peut dire si c'est une information fausse ou vraie en fonction de ce que les super validateurs ont dit et à propos de cette information au départ.
Donc c'est une approche participative, intelligente du rapport à l'information pour distinguer les fake news, les fausses informations, des informations vérifiées.
Tout à fait. Et ça met, et c'est un modèle qu'on met en place pour faire en sorte que les hommes et les machines travaillent ensemble. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle ne soit pas perçue comme une tueuse d'hommes, mais comme plutôt quelque chose qui permet de compléter ce que l'homme peut faire et que l'homme peut le faire plus vite.
Et pour entraîner, pour faire apprendre ce robot, vous avez fait appel à une vingtaine de journalistes haïtiens confirmés afin de simuler leur comportement de journaliste dans la recherche et la vérification d'informations, c'est bien cela ?
Tout à fait. Étant donné qu'on veut donc modéliser le réflexe journalistique, on s'est dit, c'est aux journalistes d'apprendre à ce robot comment eux, ils réfléchissent.
Ce qui est intéressant, c'est que c'est une initiative qui part de blogueurs et pas de journalistes. C'est-à-dire que cela manquait dans le paysage médiatique haïtien d'avoir justement des équipes de validation d'informations. Et c'est pour ça que vous mettez le machine learning et donc l'intelligence artificielle au service de l'information ?
C'est ça. Au fait, on s'est dit que c'est un outil que, par exemple, l'État ne peut pas faire parce qu'il y a un risque, il y a donc des conflits d'intérêts. C'est un outil que les médias ne pouvaient pas faire parce qu'il y aura donc de conflits. Il faut donc un groupe, une association assez neutre et crédible qui puisse donc développer un outil comme ça parce que l'outil doit être fiable, parce qu'un fact-checker est donc un outil très risqué dans le sens qu'on ne peut pas valider des informations si on n'est pas nous-mêmes fiables. C'est ça. Donc, nous-mêmes fiables veut dire que, et si le projet n'est pas porté par des gens et qui ont une certaine fiabilité et qui n'ont pas une mauvaise réputation, qui n'ont pas de conflit d'intérêt avec le secteur.
Et je crois savoir aussi que vous êtes en train de développer un chatbot. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ?
Tout à fait. Étant donné que le robot est alimenté par une grande quantité de données, le robot fait tous les matins ce que fait le journaliste. Il va sur des sites internet chercher des informations, il les stocke.
Mais il ne va pas boire un café,
tout ça. Bon, sauf ça, il est plus occupé que les journalistes. Il a moins de temps. Et tout ça qui fait que, étant donné qu'on a une quantité assez grande de données, on s'est dit, pourquoi ne pas développer un chatbot ? Parce qu'un chatbot est nourri par une quantité immense de données et une personne peut arriver sur le site et poser une question. Si la personne n'a pas un lien, actuellement on peut lire des liens, mais si la personne a entendu quelque chose à la radio ou à la télévision ou de bouche à oreille, et la personne peut venir tester sur le site si cette information est vraie. C'est-à-dire que si une information est vraie, vrai, et le robot va dire que, et en fonction des données qu'il a naturellement, que cette information est vraie, la question posée, si elle est fausse, le robot va dire que l'information est fausse et va rediriger vers l'article qui traite du sujet.
Donc, cela permet aussi à des gens qui auraient, par exemple, entendu une information à la radio, de demander au robot plus d'informations ou des détails sur ce qu'ils ont entendu sur les ondes.
Tout à fait. Dans certains cas, le robot peut ne pas avoir de réponse, et c'est normal. Et dans d'autres cas, le robot donc a une réponse qui permet à la personne d'être plus ou moins satisfait de la question.
Alors Charles Weber, Thomas.ht, rappelons que cela s'écrit Thoma.ht. Pourquoi ce nom Thomas ?
Au fait, Thomas pour deux choses. Thomas pour Haïti Thomas, puisque c'est le nom du pays. Haïti Thomas, généralement, on associe ce petit nom à Haïti, qui veut dire Haïti m'appartient, Haïti à moi. Et aussi Thomas, parce que dans la mythologie chrétienne, si vous voulez, un saint Thomas, c'est quelqu'un qui ne croit que quand il a vu. Et que finalement, c'est ce réflexe que nous voulons développer chez l'internaute, qui donc le pousse à ne pas croire une information qu'on lui envoie sur Internet au premier instant et d'aller vérifier cette information. C'est le réflexe de saint Thomas, donc d'aller voir avant de croire.
Merci beaucoup Charles Weber d'être venu nous voir à RFI. Je rappelle que vous êtes président du réseau des blogueurs d'Haïti et j'invite les auditeurs à visiter votre site de vérification d'information, donc thomas.ht.
Merci.
Que ce soit en Haïti ou au Bénin, il n'y a pas que les journalistes qui peuvent faire du bien à l'information. La société civile aussi a un rôle à jouer, comme nous allons le voir avec Mondoblog Audio. Coup d'œil dans le rétroviseur avec la présidentielle de mars 2016 au Bénin, et plus spécifiquement sur la façon dont les réseaux sociaux ont influencé ce scrutin. Écoutez Maurice Tantan, notre Mondo correspondant à Cotonou.
En mars 2016, les Béninois se sont rendus aux urnes pour élire un nouveau président de la République. L'ancien président Boni Yayi était arrivé au terme de ses deux mandats constitutionnels et ne pouvait se présenter à nouveau. Une alternance s'imposait. La période électorale a été particulièrement féconde en publications sur les réseaux sociaux. Dans le flot de posts et de tweets circulait malheureusement une abondance de rumeurs et d'informations erronées distillées ici et là. Stratégie de campagne pour certains, amateurisme pour d'autres, l'internaute béninois en a vu de toutes les couleurs. Fabriqués entre les murs du siège de campagne d'un candidat, des messages, montages vidéo ou images falsifiées destinées à mettre en difficulté l'adversaire étaient publiées en abondance. Le plus impressionnant, c'est la vitesse à laquelle ces petites intox concoctées dans les états-majors des candidats ou par des groupes de soutien ont pu inonder le web et la société béninoise tout entière. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce qui se passe sur Facebook, Twitter et WhatsApp n'en reste pas à ces réseaux-là. L'information apparaît d'abord sur les réseaux sociaux, mais elle finit dans les discussions au sein des foyers. Face aux potentielles dérives de cette campagne Ultra 2.0, les organisations de la société civile et l'association des blogueurs du Bénin que j'ai l'honneur de conduire ont effectué un impressionnant travail de veille citoyenne et se sont posées en gendarme du Web 2.0. Nous sommes évertués à relayer une information crédible et impartiale dans un contexte où la presse et les médias classiques se rangeaient chacun derrière un candidat. Désormais, on sait que le web social jouera à chaque scrutin un rôle toujours plus important. Il revient donc à chaque acteur de prendre la mesure de l'enjeu et de jouer sa partition.
L'un des acteurs fondamentaux, c'est Facebook, qui, vous l'aurez remarqué, joue dans de nombreuses élections un rôle plus important qu'il ne veut bien le reconnaître. Et vous pouvez retrouver l'article de Maurice Tantan en intégralité sur son blog Béninoscopie et sur mondoblog.org. C'est la fin de cette émission qui a été préparée avec Léo Caravagna, Camille Deloche, Camille Sarrazin et Laure Allary. À la réalisation, Simon De Creuse. Je m'appelle Steven Jambeau et pour les deux semaines à venir, on vous a concocté un programme un petit peu spécial à grand renfort de baguettes magiques.
Si j'avais une baguette magique pour améliorer les médias, ce serait plus de responsabilité.
Plus de responsabilité.
D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner au podcast de l'Atelier des médias.